Comme on l'a dit avant, il y a quand même le facteur de l'instruction qui joue, qui devrait à la longue les aider à avancer. Mais c'est vrai que en lisant toutes ces réponses et toutes ces raisons qu'elle donnait, quelquefois je me perdais. Mais une chose est sûre, je me suis dit, si je devais faire un voyage dans ces pays-là, je crois que je ferais d'une manière la plus discrète possible. C'est-à-dire que je me mettrais certainement un foulard sur la tête, parce que apparemment on se l'occidental toute nue, comme il l'appelle, sans son voile, est absolument pas respecté. Donc on n'aurait certainement pas beaucoup de chance d'avoir un dialogue quelconque ou un échange quelconque avec les hommes, et même d'une certaine manière avec les femmes, si on ne, pour le moment, on respecte pas d'une certaine manière ce code qu'elles ont remis en vigueur elles-mêmes. Enfin, pressé un peu par les cirques. De toute façon, c'est très dérangeant. Cette question est très dérangeante.
Annette, qu'en penses-tu? J'ai l'impression que, effectivement, le chemin sera long. Et qu'une des réponses, bien sûr, semble pour nous demeurer dans l'instruction. C'est clair qu'une fille instruite, qui connaît pas mal de choses, qui a, comme le relevait Evelyne, la possibilité de trouver dans son pays une intégration professionnelle, parce que ça, c'est clair que les femmes arabes ont des possibilités d'intégration professionnelle, doit forcément, peu à peu, amener un changement. Mais moi, j'ai l'impression que le chemin, c'est aussi la réflexion au niveau familial. Bon, le livre que j'ai lu en parle beaucoup, et je crois que c'est très important. Quand les femmes élèveront leurs garçons autrement, c'est valable aussi bien d'ailleurs, je pense, pour nos pays que pour les pays arabes, des changements se feront peu à peu jour. Bon, une autre chose que je pense, c'est que pour nous occidentales, c'est probablement très très difficile de pénétrer l'inconscient collectif de ces gens, qu'ils soient hommes ou femmes.
Moi, je crois que c'est ce que tu dis en dernier qui m'interpelle le plus, et entre autres suscité parce que tu as dit aussi toi, Evelyne, par rapport à dire, moi, si j'allais, je crois que je mettrais un foulard sur la tête. Je constate quand même que quand je suis allée en Algérie en 1978, la première fois, j'ai pu circuler ultra librement partout. Je n'étais pas voilée, je n'étais pas avec un décolleté plongeant, etc. Ok, mais j'étais habillée à l'occidental, même en pantalon parfois, si je me souviens bien. Et on m'a toujours respectée. Jamais je n'ai été agressée, ni par les hommes, toujours reçue dans les deux milieux, aussi bien acceptée dans le monde des hommes que les femmes. Donc il y avait déjà cette séparation totale du monde. Mais à la fois, c'est comme si on reconnaissait que j'avais un statut de femme occidentale qui n'était pas le statut de leur femme. Donc, on pouvait m'accepter dans les deux endroits. Je sais qu'aujourd'hui, en Algérie, ça n'est plus le cas. Dans le sens qu'une femme occidentale, on la méprise au même titre qu'une femme algérienne qui se promènerait sans voile. Voilà. Dans le sens qu'il n'y a plus cette acceptation d'une autre civilisation, d'un autre mode de vie. Désormais, toutes les femmes devraient se conformer à cette règle islamique. Et ça, c'est ce que je trouve très inquiétant, dans le sens que nous, c'est vrai qu'en tant que femmes occidentales, on est choquées par ce qu'on apprend du mode de vie, parce que, évidemment, ça ne correspond pas à notre envie de liberté, d'indépendance, d'intégrité de la personne. Et je crois qu'il y a quand même une sacrée menace sur l'intégrité des femmes musulmanes dans les lois qu'elles doivent subir. Ça, c'est pas seulement la référence à notre monde occidental. Mais il n'empêche que je crois que mon espoir à moi, en tout cas, c'est de voir ces jeunes femmes qui, à la limite, n'ont pas été éduquées dans le monde colonisateur, hein, qui sont de la nouvelle génération, qui ont déjà été islamisées, arabisées, qui sont plus sous l'influence trop grande du colon, et qui, aujourd'hui, ont toujours envie de se battre contre ces lois. Moi, je me souviens que l'histoire du voile en France, la seule réponse que j'avais envie de dire, mais moi, j'ai rien à dire, j'aimerais savoir ce que les femmes algériennes en pensent, point la ligne. C'est elles qui se battent contre le port du voile ou non, c'est elles qui savent si c'est juste d'interdire ou d'accepter les voiles dans les écoles, c'est pas à nous, occidentales. Je veux dire, ça ne nous menace pas, nous, le fait qu'une femme porte un voile. c'est parce qu'on a envie de se battre pour elles qu'on dit ça. Mais en même temps, on a envie de les appuyer où elles ont envie qu'on les appuie, quoi. Donc, c'est vrai que ça nous sensibilise beaucoup, mais c'est sûr que quand je lis que dans La femme lapidée, que les femmes, malgré leur révolte contre la condamnation qui pèse sur cette femme, finalement vont quand même participer à jeter les pierres, vont quand même participer à empêcher l'enterrement de la jeune femme, etc. Je me dis, mais jusqu'où va la contrainte qui oblige même les femmes à participer à ça ? C'est que c'est vrai que c'est pas notre histoire d'occidentale qui importe, hein, c'est leur histoire à elles qu'il faut que... Alors, est-ce que ce sera notre contact ? J'en sais rien. Mais de nouveau, on se sent... Moi, en tout cas, je sais que je me méfie. Et jusque-là, je préfère dire que, en tout cas, moi, dans les pays du genre Arabie Saoudite, que, ouais, de toute façon, aujourd'hui, la question ne se pose pas. Mais, en tout cas, j'irai pas. Moi, j'ai pas envie de me confronter à ça. J'ai pas envie de me sentir en révolte permanente. J'ai pas envie de me sentir en train de dire, mais écoutez, vous pouvez pas continuer à accepter ça, quoi. Moi, je trouve ça trop dur.
D'ailleurs, ça a donné récemment... tristement, des problèmes avec, pour arriver dans l'actualité là, de nos jours, des problèmes avec les masques à gaz, parce que, évidemment, justement, en Arabie Saoudite, il y a des femmes qui portent en plus encore ce masque qu'ils appellent niqab, en plus du voile, et qui est en cuir, hein, oui, et alors, le problème, c'était comment elles font. Bêtement, on dira à nous, hein. Elles mettent le masque ou bien elles mettent lequel masque, le niqab ou bien elles mettent le masque contre les gaz chimiques, hein, envoyés peut-être par Saddam Hussein. Et comment elles le font, elles ne peuvent pas le faire en public, on n'ose pas voir leur visage. Alors, ça a donné lieu à des tas de discussions et finalement, je ne sais pas, ils sont mis d'accord que deux femmes alors se mettaient devant celle qui devait se changer pour qu'elle... Enfin, ça devient vraiment... C'est vrai, ça devient absurde. Hein? Là, il y a quelque chose qui, évidemment, ne va plus.
Mais malgré tout, si tous ces livres sont publiés, y compris dans nos pays, c'est que quelque part les auteurs de ces recherches ont envie qu'on sache ce qui se passe dans ces pays. Donc ont envie que les femmes occidentales soient aussi un peu solidaires de ces femmes-là. Non, vous ne pensez pas autrement? Pourquoi ces livres seraient-ils tous écrits et publiés chez nous?
Oui, moi je pense que l'information concernant ces problèmes doit absolument être étendue. Et que même si on sait une ou deux choses, tout le monde sait un petit peu ce qui se passe concernant les femmes voilées, des témoignages comme ceux dont on a parlé ce soir ne peuvent que éclaircir un petit peu la situation et donner à tout le monde effectivement l'envie quand même d'une part de mieux comprendre et peut-être à quelques-unes le courage de se battre.
Alors rappelons rapidement les titres des deux livres dont vous nous avez parlé ce soir. Evelyne.
Alors Les voilées de l'islam de Hinde Tarji aux éditions Palan, paru en 1990.
Annette.
Née en France, histoire d'une jeune beurre, publiée par les documents Payot, les deux auteurs, Aïcha Benaïssa, la jeune fille, Sophie Ponchelet, la journaliste.
Et bien sûr, nous vous rappelons que ces livres, vous les trouvez sur les rayons de la librairie L'Inédite, rue Cardinal Mermillot à Genève. Vous nous rappelez les heures d'ouverture? Qui des deux?
La librairie est ouverte tous les après-midi de 1h30 à 6h30, le samedi de 10h à 1h, le matin, sauf le lundi, de 9h à 11h30.
Alors Annette et Evelyne, encore mille merci pour votre visite de ce mois et au mois prochain. Thank you. tout au long de notre évocation de ces livres consacrés aux femmes musulmanes, en compagnie de nos amis de la librairie L'Inédite, vous avez entendu des femmes musulmanes, des femmes arabes chanter, Ferrous, chanteuse libanaise, des femmes marocaines, des femmes algériennes, des femmes du Bahreïn, et en ce moment, une femme palestinienne. Vous êtes toujours dans Remue Ménage, Onde Femmes, Radio Zone 93.8.
شدي عليك الجرح وانتصبي عبر الدجى رمحا من اللهب شدي عليك الجرح وانتصبي عبر الدجى رمحا من اللهب فيها خيول الهول والرعب فالأرض فيها وجه مذبحة والجو أمطار من الشهب لم يبقى غصن غير منتهب لم يبقى وجه غير وجه مذبحة والجو أمطار من الشهب لم يبقى غصن غير منتهب لم يبقى وجه غير مستلب
Ce soir, nous sommes septembre et j'ai fermé ma chambre. Le soleil n'y entrera plus. Tu ne m'aimes plus. La
Nous interrompons juste momentanément notre chanson puisque nous avons la chance d'avoir au téléphone Marielle Budry des Féministes contre la guerre. Marielle, bonsoir. Marielle ? Ah voilà. Alors écoute, Marielle, vous avez distribué en tant que féministe contre la guerre lors de la manifestation du 26 janvier à la Place Neuve contre la guerre qui se déroule dans le Golfe en ce moment, un tract qui appelait les femmes à venir se regrouper sous la banderole des femmes des féministes contre la guerre. Alors j'aurais aimé savoir, s'il te plaît, est-ce qu'il y a eu des femmes qui sont venues vous rejoindre, qui ont rejoint votre appel ?
Oui, donc c'était un appel que j'avais distribué dans la semaine précédant la manifestation à des groupes, à des groupements féministes individuels, et nous avions une banderole solidarité avec les femmes sous les bombes, et nous avions demandé de venir en habit de deuil avec, sous cette banderole. Alors c'est très difficile d'évaluer combien de femmes ont répondu à notre appel, parce qu'une manifestation, c'est très mouvant, mais nous étions toujours bien une vingtaine autour derrière cette banderole, en habit noir et à crier des slogans. Puis d'autres ont passé, nous ont fait un petit bonjour, sympathique. J'ai eu aussi des lettres et des téléphones d'excuses de femmes qui ne pouvaient pas participer à la manifestation, mais qui viendraient, qui étaient de tout cœur avec nous. L'appel, c'était pas uniquement regroupons-nous pour une manif, c'était surtout protestons contre cette guerre et engageons-nous en tant que féministes conséquentes dans des mouvements de pacifistes.
Justement, Marielle, est-ce que il va y avoir une suite à cette manifestation? Parce que comme tu le dis, une manifestation, c'est un moment de rencontre. Mais est-ce que les femmes qui vous ont rejoint ce jour-là ou celles qui ont signé le tract avec toi vont continuer à se réunir et proposer une suite à cette
oui.
première étape?
Alors justement, nous sommes vues aujourd'hui à midi. Nous sommes en train d'élaborer plusieurs projets. D'abord de tenir une sorte de permanence de protestation, une présence de femmes dans la rue hein, pour exprimer notre solidarité avec toutes les femmes victimes de la guerre. Ça serait bon alors. Pensons nous tenir dans un lieu à Genève une fois par semaine avec une banderole. Mais nous n'avons pas encore décidé de l'endroit. Nous cherchons un peu un lieu symbolique et passant également et pas trop exposé au froid. Alors, disons que nous déciderons mercredi prochain du lieu. Alors ça serait une présence et un lieu de rencontre et d'échange entre femmes qui protestent contre la guerre. Nous voulons aussi faire un tract de refus de la logique de la guerre qui est actuellement banalisée. Et à ce propos, nous aimerions interpeller des journalistes, des responsables de la télévision qui déshumanisent pareillement la guerre et adoptent la logique de belliciste en ce moment. Alors voilà trois types de choses que nous voulons faire.
Marielle, si des femmes avaient envie de vous rejoindre, quel rendez-vous peux-tu leur proposer si elles écoutent en ce moment notre programme et qu'elles t'entendent?
Alors, dans un premier temps, nous nous rencontrons mercredi prochain à midi à la cafétéria d'Uni 2. Mais dès mercredi prochain, nous déciderons du lieu, puis nous espérons pouvoir repasser sur les ondes et vous dire le lieu de rencontre dans la rue que nous déciderons.
Pas de problème en tout cas pour repasser sur nos ondes. Juste une dernière chose, Marielle. Féministes contre la guerre, c'est une association qui regroupe des femmes féministes, comme son nom l'indique. Il y a aussi Femmes pour la paix. Est-ce que vous vous distinguez d'une certaine façon de cet autre regroupement de femmes?
Disons qu'on a repris le nom d'un groupe qui existait il y a 4 ans, Féministes contre la guerre, où on s'était distancié de Femmes pour la paix. Enfin, on avait fait autre chose parce que nous n'aimions pas tellement le rapport, mettre toujours le rapport avec la maternité. Nous ne sommes pas contre la guerre, nous ne sommes pas antimilitaristes parce que nous donnons la vie. Nous pensons que c'est parce que nous sommes féministes que nous voulons, et parce que nous voulons un autre type de société que nous nous engageons. Mais maintenant, c'était un titre qui est venu, c'est pas un groupe vraiment organisé, c'est un titre qui s'imposait en ce moment d'être des féministes contre la guerre. Et bien sûr que le groupe ces rencontres sont ouvertes à toutes les femmes et bien sûr aux femmes pour la paix qui sont beaucoup engagées ces derniers temps et qui je me sens très proche. Il y a juste pour l'instant ce problème de la maternité, quoi, de toujours le référer à la maternité pour s'opposer à la guerre.
Marielle, je te remercie de toutes ces précisions. Alors, nous attendons ton téléphone la semaine prochaine pour annoncer la suite de votre action. Merci, Marielle.
Questa grande differenza se non facevi senza di questi occhi miei. Perché nella mente del padrone hai il cuore di cotone, la gente come me, tu non vivevi senza me. Hai l'amore, prima sapevi il perché. Hai l'amore. français. Ormai lo so, tutto il mondo è una filanda, c'è sempre chi comanda e chi ubbidirà. Però, però, se l'amore si fa in due, di queste colpe sue ne ho anch'io la metà. Tu non vivevi senza me, hai l'amore, prima sapevi il perché, hai l'amore, che cos'è? Hai l'amore, hai l'amore, che cos'è? Auauè, 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 auauè.
Voilà, ce soir, dans cette musique langoureuse, Remue Ménage, c'est terminé. Nous avions parlé avec nos amis de l'Inédite. Et la semaine prochaine, eh bien, ce sera une émission très culturelle encore, puisque nous recevrons l'association Femmes de Théâtre qui viennent nous parler de leur nouveau programme de ce début d'année. D'abord, ça commence par ce lundi 4 février avec une série de, comme elle l'appelle, un programme dégustatif en Saint-Lundi avec plein...